BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Bonjour Marie Cosson.
Bonjour Erwan.
Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Marie Cosson, DRH chargée du développement des compétences à la RATP, la régie du métro parisien. Alors j'imagine que vos équipes, particulièrement quand on parle de ressources humaines aujourd'hui, ne sont pas forcément les plus zen en ce moment, étant donné le travail considérable que vous avez à faire dans le métro parisien, notamment en ce qui concerne les recrutements ces prochains mois, avec des objectifs, j'imagine, jamais vus jusqu'à maintenant, 6600 personnes à recruter avant la fin de l'année.
C'est ça. Donc 6600 recrutements, c'est effectivement un plan assez inédit de recrutement pour la RATP cette année. Néanmoins,
assez inédit ou c'est vraiment une première ?
Non, c'est assez inédit.
Oui.
La RATP est un employeur majeur de l'Île-de-France et elle a l'habitude de dérouler tous les ans des plans de recrutement qui se situent historiquement autour de 3 à 4 000, voire un peu plus, 4
mais 500
là, les grosses.
Donc 000, là,
6 600,
c'est, double,
c'est inédit.
Hein. Ouais.
Bon, ça dépend. Donc, on a 4 900 CDI, effectivement, à pourvoir, auxquels s'ajoutent 1 000 contrats en alternance, donc soit des contrats d'apprentissage, soit des contrats de professionnalisation, et puis 700 contrats d'insertion qui sont aussi ouverts au public qui ont une démarche de retour vers l'emploi.
Et alors, vous en êtes où ? Parce qu'on dit que cet objectif, il est pour la fin de l'année. La fin de l'année, c'est dans 6 mois. Comment alors, vous allez faire ?
Moi, je compte plutôt 8 mois, la fin de l'année, puisque là, à la fin d'avril, c'est-à-dire à la fin, à la fin du premier quadrimestre, on est complètement en ligne avec le plan qu'on avait annoncé en début d'année. Et donc, on a recruté plus de 30% de ce plan. Donc, on est en ligne avec le déroulement de notre plan de recrutement.
Donc, vous allez y arriver.
Eh ben, on s'en donne tous les moyens. Ouais. Et en tout cas, on est sur ce premier quadrimestre bien parti pour réussir. Donc, une forte mobilisation de l'ensemble des équipes RH, mais aussi des équipes de communication et des managers, puisque ce sont les managers qui recrutent dans tous les métiers. Donc, beaucoup de besoins sur les métiers qu'on appelle de la conduite, qui sont les métiers un peu faciles à identifier pour la RATP.
Oui, oui. 2700
conducteurs de bus, 400 conducteurs de métro. Et puis ensuite, on a aussi peut-être des métiers qui sont moins spontanément imaginés quand on pense à la RATP. Il y a d'abord 700 postes à pourvoir sur ce qu'on appelle les agents des gares et des stations. Donc, ce sont les agents qui accueillent les voyageurs, qui font l'information voyageurs, la vente des titres de transport, etc., qui pratiquent aussi les opérations de contrôle des titres de transport. On a aussi énormément de besoins dans deux métiers peut-être moins connus du grand public, tous les métiers qu'on appelle de la maintenance, c'est-à-dire les personnes, qu'elles soient opérateurs, techniciens ou ingénieurs de maintenance, qui vont travailler sur toute la préparation des installations qu'on dit ferroviaires, donc les voies, la signalisation, les automatismes ferroviaires, tout ce qui est le génie civil, l'entretien des tunnels, des ponts. On a les gens qui entretiennent et maintiennent les trains, les métros, les tramways, les bus aussi, puisque donc des gens qui font de la mécanique, de l'électromécanique, donc une diversité de métiers énorme. Et puis tous les gens qui entretiennent les gares et les stations, on oublie nos escalators, les ascenseurs, les plombiers, les électriciens, qui font que les stations, elles sont accueillantes aussi pour tout le monde.
Et ça fait énormément de monde. Il y a combien de personnes derrière pour recruter toutes ces personnes?
Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête du nombre de personnes qui contribuent au recrutement dans la fonction RH, mais ça fait beaucoup d'acteurs, et surtout d'acteurs aussi indirects, puisqu'on a une part de nos équipes de presse, de gestion des réseaux sociaux, de la communication, des managers qui s'investissent, des ambassadeurs dans les écoles aussi, avec lesquels on a des partenariats, les gens qui viennent sur les salons, les forums d'emploi. Voilà, donc ça fait, quand on met bout à bout, énormément de gens qui sont mobilisés tous les ans, et en particulier cette année, pour recruter.
Et on peut faire des bons recrutements quand on cherche autant de personnes en si peu de temps, parce qu'un recrutement, généralement, c'est pas un seul entretien direct, c'est oui, on vous prend, non, on vous prend pas, c'est on voit quand même la personne au moins deux fois, parfois plus. Là, vous avez la même procédure ou c'est accéléré?
Alors, continuellement, on améliore nos processus de recrutement, et aujourd'hui, comme dans toutes les entreprises, l'agilité, la rapidité, c'est la compétitivité en matière de recrutement. Donc évidemment, on travaille sans cesse sur l'amélioration de nos délais, la souplesse, la facilité de nos processus de recrutement. Néanmoins, les transports urbains, c'est une mission de service public qui est extrêmement exigeante, qui est aussi une mission de grande responsabilité, de transporter des millions de franciliens tous les jours vers l'ensemble de leurs activités en toute sécurité, avec ce qu'on peut imaginer derrière ce mot-là. Donc on a un processus de recrutement qui est rodés. Encore une fois, on a l'habitude de faire des très gros plans tous les ans. Et donc là, on multiplie les sessions de test, les sessions d'entretien, mais on n'a pas abaissé l'exigence de nos recrutements.
Donc des recrutements, bien sûr, de la formation aussi, parce que derrière, il faut former les personnes qui...
Alors c'est la particularité de la
RATP. Et vous formez jour et nuit. J'ai vu ça dans le métro.
On forme en journée étendue.
Ah oui, bah, c'est-à-dire jusqu'à quelle heure?
Jusqu'à 19-20 heures.
Ah bon, on fait pas conduire, on forme pas les conducteurs de métro
Non, pas tellement au-delà de ce début de soirée, on va dire.
Est-ce que les personnes que vous recrutez, elles sont dans des bonnes conditions pour apprendre les métiers que vous allez leur proposer?
On crée les bonnes conditions, puisqu'effectivement, sur la plupart des métiers de la RATP, ce sont des métiers pour lesquels on embauche les gens et immédiatement, tout de suite, on les forme au métier, puisqu'on ne trouve pas les compétences déjà existantes sur le marché de l'emploi, puisque conduire un métro, ça ne s'apprend qu'à la RATP.
Et il y en a beaucoup qui sont partis aussi. Vous avez été, comme la restauration, comme l'hôtellerie, les transports, un secteur victime de la crise sanitaire, avec des conducteurs de bus notamment, on en avait beaucoup parlé, qui sont partis, qui
oui,
se sont reconvertis.
Comme l'ensemble des secteurs en tension que vous avez cités, les transports urbains sont un secteur en tension. Donc on a connu post-Covid un taux de départ à la RATP supérieur à ce qu'il était, mais qui reste très inférieur néanmoins à ce qu'on peut connaître dans ces secteurs.
Ce lundi 22 mai, vous présentez 250 postes à la gare Saint-Lazare. Ça va être des postes à pourvoir immédiatement?
Alors, on présente les 250 métiers de la RATP.
Ah, les métiers,
mais pour recruter
beaucoup plus de postes,
l'ensemble des chiffres, des 6600 moins ceux qu'on a déjà effectués. Oui, donc on a une opération toute la semaine prochaine, donc de 9h à 14h. Tout le monde peut venir rencontrer à la fois des chargés de recrutement ou des gens du métier dans la salle des piliers de la gare Saint-Lazare, c'est-à-dire à l'intersection des lignes qui traversent la gare Saint-Lazare.
Avis aux amateurs. Qui ont envie aussi qui sont à la recherche d'un emploi et que ça pourrait intéresser. Marie Cosson, il y a, on le disait en introduction de cette émission, un mécontentement quand même généralisé des usagers auxquels vous devez aussi faire face à la RATP. Parce que les rames sont saturées, parce qu'il y a beaucoup d'incidents techniques aussi sur les lignes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et tout le monde partage son expérience à travers ces réseaux et on le voit au quotidien, l'agacement des usagers. Ça vous touche, vous aussi, en tant que profession RH, de voir que le service que vous proposez est parfois défectueux, en tout cas pas à la hauteur de ce que les usagers attendent?
Alors, traiter le contentement comme le mécontentement des usagers, ça fait partie du métier. Tous les agents qu'on recrute et qui sont dans l'entreprise, ils sont formés et ils sont accompagnés pour gérer ça. Bien entendu, on ne se satisfait pas du mécontentement des voyageurs. Sur l'offre de services, et notamment du métro, elle s'est beaucoup améliorée. Et comme IDFM l'avait fixé, l'offre de métro, elle est revenue là, dans les tout prochains jours, elle sera à l'attendu de ce que Île-de-France Mobilité fixe comme objectif à la RATP.
Donc
et on est revenu
crise.
Au niveau avant Covid, tout à fait.
Ça, vous le confirmez?
Oui,
on est censé le voir aussi quand on prend le métro.
Je pense que depuis quelques semaines, ça se voit déjà. Pour être une usagère quotidienne, je l'ai constaté moi-même.
Pour terminer, Marie Cosson, il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine. Ça aussi, c'est un défi de taille pour vous,
absolument,
bien sûr, et c'est pour ça que vous recrutez.
En partie.
Oui, parce que j'imagine que ces recrutements,
ces recrutements, ils préparent plusieurs choses. Ce sont
ils
des
vont
recrutements.
Rester les 6600.
Bien sûr, parce que ce sont principalement des CDI, tout à fait. Donc, absolument, et ils préparent les JO, bien sûr. Ils préparent aussi la Coupe du Monde de rugby à la fin de l'année 2023.
Oui, c'est ça.
Ils préparent aussi les extensions de lignes, puisqu'on va avoir la ligne 11, la ligne 14, et donc quand on fait des lignes plus grandes, on a besoin de plus de personnel pour exploiter les lignes.
Voilà. Donc, à quoi vont ressembler la RATP et le métro parisien l'année prochaine, pendant notamment l'été des Jeux Olympiques?
Ça ressemblera à ce que c'est comme d'habitude, sauf qu'il y aura un plan de transport qui est en train d'être finalisé et travaillé par toutes les parties prenantes.
On aura moins de pannes, on aura moins d'incidents voyageurs, on n'aura pas des rames bondées.
Alors moi, je suis pas devin, je sais pas vous dire ça. Et en plus, mon métier, c'est pas l'exploitation, c'est les ressources humaines. Donc, je vais probablement être un peu moins précise dans
mes
réponses.
Mais il y aura suffisamment de personnel pour faire en sorte que ça n'arrive pas.
On s'organise et on anticipe les choses de sorte à ce qu'on soit suffisamment là pour pouvoir opérer l'exploitation dans les meilleures conditions, avec un volume de voyageurs et donc d'incidents, etc., qui est automatiquement aussi augmenté, mais qui est aussi notre enjeu, puisque notre ambition pendant les JO, c'est d'être le plus beau sourire de Paris.
Merci beaucoup, Marie Cosson. Et bon courage aussi pour tous ces défis qui vous attendent dans les mois à venir. Marie Cosson, DRH chargée du développement des compétences à la RATP.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Vous êtes toujours avec nous et nous allons échanger ensemble désormais sur la santé des entrepreneurs avec nos invités. Mais d'abord, Étienne Henry nous rejoint dans Happy Boulot. Étienne, ce qu'on peut dire, c'est que les entrepreneurs sont globalement heureux, mais aussi stressés par un certain nombre de difficultés qui s'accumulent.
Oui, tout à fait. C'est ce qui ressort de la dernière enquête de l'IFOP pour Stello. 88% d'entre eux se déclarent heureux, mais ce bonheur est souvent synonyme de stress. En effet, 60% des entrepreneurs se déclarent stressés. Et les origines de ce stress sont multiples. En premier lieu, on retrouve la hausse des charges et du prix de l'énergie. La baisse du chiffre d'affaires est aussi un facteur de stress pour ces chefs d'entreprise. La charge de travail, souvent trop importante, pèse aussi sur leur santé mentale. Enfin, le risque lié au financement de l'activité angoisse un entrepreneur sur quatre.
Étienne, ce qu'on voit aussi dans cette étude, c'est que l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle est dur à trouver pour ces entrepreneurs.
46 heures, c'est la moyenne d'heures travaillées par semaine et près de la moitié des chefs d'entreprise interrogés travaillent plus de 50 heures par semaine. Cette pression accumulée, elle se traduit par une prise de congé minimale. Les deux tiers des femmes entrepreneurs reprennent leur travail avant la fin de leur congé maternité et 84% des hommes prennent moins d'une semaine de congé paternité. Malgré un stress important et une vie professionnelle qui prend le pas sur le personnel, près de 9 entrepreneurs sur 10 ne souhaitent pas quitter l'entrepreneuriat pour redevenir salarié.
Merci beaucoup Étienne Henry. Pour aller plus loin, j'accueille sans plus tarder nos deux invités. Bonjour Julie Davy-Copin.
Bonjour.
Merci d'être là, présidente de la French Tech ex-Marseille. Vous êtes aussi directrice générale d'Ombrea et vous vous êtes saisie de ces questions de santé dans les entreprises et notamment concernant les entrepreneurs. Face à vous, François-Xavier Combes, bienvenue.
Merci.
Vous êtes le fondateur de Stello, assurance professionnelle en ligne, et c'est donc vous qui avez commandé à l'IFOP, cette enquête que l'on vient de découvrir et que vient de nous détailler Étienne sur la santé physique et mentale des entrepreneurs. D'abord, ce qu'on voit, François-Xavier, et ce que nous disait Étienne à l'instant, les entrepreneurs indépendants, ils sont heureux professionnellement. Ça, c'est peut-être la première chose qu'on peut dire, chose positive.
Oui, c'est une chose positive et c'est ce qu'on constate au quotidien, c'est qu'ils ont posé un choix qui est un chemin de liberté. Et nous, chez Stello, on les regarde comme des aventuriers qui sont épris de liberté. Mais le chemin n'est pas sans embûches.
Voilà. Julie Davy-Copin, il y a une recherche de liberté qui est très importante dans l'esprit de ces entrepreneurs qui fait que ils maintiennent ce travail, ils continuent à exercer en entrepreneur, en auto-entrepreneur, parce que pour eux, c'est aussi une priorité.
Oui, et puis c'est pour ça qu'on entreprend d'ailleurs. Moi, je rajouterais même, alors plutôt sur le secteur de la tech que je connais mieux. Nous, c'est l'adrénaline. Clairement, c'est l'adrénaline qui nous pousse à nous lever tous les matins. Et c'est vrai que les heures, quand on aime son travail et quand on est porté par ce goût du risque, du challenge, on les voit pas passer ces heures de travail. Donc forcément, on peut arriver à des dérives qui sont très fortes, des 60 heures, 70 heures par semaine. Ça peut finalement aller très vite. Et c'est pour ça que c'est aussi dangereux et que c'est important d'en parler, de justement se soucier aussi de la santé mentale des entrepreneurs pour pallier des risques potentiels aussi sur la santé des entreprises.
Donc l'atout que représente l'entrepreneuriat, c'est aussi la faille, c'est-à-dire on a de la liberté, donc on fait ce qu'on veut, mais donc on ne se met pas aussi les limites qu'on peut avoir et le cadre qui va aussi protéger les salariés, à savoir des congés, déconnexion. Là, on n'a pas ça.
Non, on n'a pas ça, et nous c'est aussi ce qu'on a constaté chez Stello, c'est que le paradoxe est souvent un entrepreneur va avoir tendance à protéger son outil de travail, son ordinateur, son local, etc. Mais souvent le capital le plus précieux à protéger, c'est sa santé, sa personne, puisque ils sont très nombreux à exercer tout seul. Si demain ils ont un problème de santé grave, leurs ambitions, leurs rêves, leur boîte, c'est terminé. Et donc nous aussi, le message, c'est dire qu'il n'y a pas de fatalité, il faut écouter, s'écouter soi-même, et ensuite nous on a des solutions, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, pour que ces gens-là soient protégés, donc des contrats d'assurance, prévoyance mutuelle, mais surtout on leur dit
dédié aux entrepreneurs.
Dédié aux entrepreneurs. Ouais. En fait, ils oublient tout le temps, ils s'oublient eux-mêmes. Donc ils se négligent parce qu'il y a aussi le syndrome un peu du super-héros. Ouais, je vais pas m'arrêter si j'ai un rhume, etc. Quoi. Voilà, on l'a tous, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le truc grave. Le burn-out, c'est pas, on peut être en super santé, hyper sportif, quel que soit son âge. Qui peut dire qu'il n'aura jamais de burn-out? Personne.
D'accord avec ça, Julie ?
Oui, complètement, ouais. Entièrement. Surtout dans, quand on est chef d'entreprise, on navigue tous les jours dans l'imprévu. Et je pense que face à cet imprévu, on veut incarner finalement une stabilité pour entraîner à nos côtés les partenaires, les salariés aussi. Et donc, si on s'oublie forcément et qu'on continue à endosser cette super armure du super-héros, c'est là que la chute peut être extrêmement violente et extrêmement dure. C'est pour ça que nous, on alerte à la French Tech Expo Marseille et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé en tout cas d'écrire une tribune et de me saisir du sujet. Il faut que les entrepreneurs se fassent accompagner, se fassent coacher. On est sur un sujet qui est extrêmement tabou, qui est assez peu abordé, mais comme un sportif de haut niveau, l'entrepreneur doit se préparer mentalement à être performant.
Et comment alors ? Comment on fait ?
Déjà, il faut faire preuve d'humilité. Il faut reconnaître qu'on ne sait pas tout sur tout et qu'on ne pourra pas forcément tenir dans des conditions déséquilibrées. Donc c'est déjà poser cette base-là, avoir cette humilité aussi de reconnaître qu'on a besoin d'aide avant même que les problèmes n'arrivent, et c'est la raison pour laquelle je crois très fort au coaching. Je pense qu'il faut vraiment faire une priorité que les entrepreneurs se fassent coacher pour avoir un travail sur du long terme et incarner aussi, parce que on incarne la boîte, on incarne aussi nos salariés. On peut pas vouloir avoir des salariés qui se sentent bien dans l'entreprise si le capitaine perd complètement les pédales. Ce n'est absolument pas tenable sur le long terme.
Vous proposez quoi, vous, alors ? Parce que, donc, du coaching, très bien, mais c'est-à-dire, vous, typiquement, soyons très concrets, à la French Tech ex-Marseille, vous allez vous proposer des coachs, vous allez communiquer auprès de... on est essentiellement dans la tech, donc c'est à ces entrepreneurs de la tech sur, voilà, il existe telle ou telle solution, comment ça se passe ?
Alors, c'est déjà en parler. On s'adresse effectivement aux entrepreneurs, mais aussi aux fonds d'investissement. On les appelle aussi à se saisir du sujet parce qu'ils sont aussi au contact des entrepreneurs. Mmh. On a lancé un partenariat avec un réseau de coachs qui vont justement animer des sessions de travail avec nos entrepreneurs. Et puis nous, on promeut évidemment tout l'esprit de réseau, de mentorat. Moi, je crois très fort aussi que les entrepreneurs n'exercent pas une activité solitaire du tout. C'est un travail collectif avec nos partenaires, mais aussi entre pairs. Donc les entrepreneurs, on les encourage à faire du sport ensemble, à passer des soirées ensemble, sortir, échanger. Et c'est comme ça justement qu'on arrive à avoir cette soupape de décompression pour après être plus performant dans nos entreprises.
60% donc, selon cette enquête que vous avez menée, François-Xavier Combes, 60% se sentent stressés. Vous diriez que c'est spécifique aux entrepreneurs ou on va retrouver ça au même niveau dans une entreprise d'un cadre qui doit manager 10-20 personnes ?
C'est évidemment complètement différent parce que, comme on vient de le dire, il y a une posture à avoir, on ne peut pas faillir. Donc en fait, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, va prendre tout, c'est le paratonnerre, il va absorber tout, les stress financiers, les stress les stress géopolitiques. Je veux dire qu'aujourd'hui, on est dans une période compliquée pour le business, mais aussi il y a l'inflation, il y a les coûts, il y a plein de facteurs. Et ça, le chef d'entreprise, il les prend, l'entrepreneur les prend pour lui, il les intériorise. Il est hors de question qu'il aille déverser son stress auprès de ses salariés ou de ses partenaires. Donc effectivement, le niveau monte. Je crois qu'il y a 21% qui se disent même plus stressés parce qu'on est dans une conjoncture qui est assez complexe. Mais nous, encore une fois, on leur dit qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a de la prévention. Oui. Et nous aussi, on veut être animateurs de notre communauté d'entrepreneurs. Donc on a coaché 1500 personnes l'année dernière, 1500 entrepreneurs au travers d'un événement qui s'appelait La Cordée.
Donc vous-même, vous faites du coaching. Ça va être récurrent, enfin, comment?
Oui,
ça se passe?
Nous, on fait un événement qui s'appelle La Cordée, qui est un événement dédié à l'entrepreneuriat, qui est ouvert non pas seulement à nos clients, mais à tous les entrepreneurs, où on traite plusieurs problématiques entrepreneuriales, dont le coaching et la préparation mentale. Et donc, on a eu 1500 participants à notre événement l'année dernière, parce que c'est notre rôle d'animer cette communauté, de ne pas laisser ces chefs d'entreprise tout seuls. Et notre deuxième rôle en tant qu'assureur, c'est évidemment de créer les solutions d'assurance, parce qu'on peut se protéger. Ouais. Et ça, tous les entrepreneurs qu'on croise ne le savent pas.
Parce que les entrepreneurs, ils ont peur de quoi ? De tomber malade, de ne pas être payé pendant 2-3 jours, peut-être d'avoir une maladie plus grave ou un handicap,
en
un
fait,
accident.
Ils sont ignorants de leur protection sociale. Quand on est salarié, on ne se pose pas la question, on est dans un cocon en France. Ouais. Quand on est indépendant, le statut social n'est pas du tout le même et ils n'en savent rien.
Et donc, si on s'en occupe pas, ça vient pas à nous.
Mais ça viendra jamais à nous. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que nous, on va. Pour
ça, c'est-à-dire quand on est salarié, on a la mutuelle de l'entreprise, bien souvent, et on a quasiment rien à faire. On signe 2-3 papiers.
Voilà.
Alors que là, il faut faire les démarches.
Et il faut se faire réveiller. Ouais. Et donc nous, notre rôle chez Stello, c'est clairement quand on a nos clients au téléphone, leur dire est-ce que vous avez pensé à vous ? C'est bien d'assurer votre ordinateur, votre local et vos salariés, mais vous, que va-t-il se passer ? Et la réponse qu'ils font la plupart du temps, c'est si j'ai un rhume, je vais pas m'arrêter, etc. Donc nous, on est là pour parler du cas le plus grave.
Et c'est vrai qu'on voit dans votre sondage qu'il y a quand même ces chiffres qui sont attristants. Hein. Les vacances sont un moment générateur de stress pour un entrepreneur sur trois. C'est-à-dire que même pendant les vacances, on n'arrive pas à déstresser. On voit aussi qu'une femme sur trois entrepreneurs reprend le travail une semaine seulement après avoir accouché. Bah ça c'est aussi symptomatique de ce que c'est qu'être entrepreneur. Malgré tout, et on va terminer, il nous reste une minute sur ce chiffre, on a une très grande majorité d'entrepreneurs, hein, 86% qui affirment ne pas vouloir redevenir salarié dans les 12 prochains mois. C'est-à-dire que malgré tout ça, certaines personnes, je pense que c'est aussi une question de personnalité, se diraient jamais de la vie je vais devenir entrepreneur. Et ben non, ces personnes qui ont l'esprit d'entreprise, malgré tout ça, disent moi j'ai envie de continuer.
Complètement, mais je pense qu'on l'a choisi ce métier, on l'adore, on l'exerce avec passion, mais ça veut dire aussi que pour continuer à l'exercer avec passion sur du long terme, il faut prendre soin de soi. Je pense que c'est vraiment le message à faire passer aujourd'hui.
Trouver aussi un bon équilibre, ça sera le mot de la fin, et savoir qu'on peut être aussi accompagné.
Et savoir se faire accompagner et prendre les bonnes solutions pour préserver son capital humain, qui est son capital de valeur numéro un pour quand on est entrepreneur, et qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin.
Merci beaucoup. Merci infiniment. François-Xavier Combes, fondateur de Stello, et Julie Davico, présidente de la French Tech ex-Marseille, avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
Tenez-vous qui nous écoutez, qui nous regardez aussi sur BFM Business. Est-ce que vous avez encore dans votre entreprise un restaurant, fameux restaurant d'entreprise ? Répondez-nous, dites-nous par mail avec vous à bfmbusiness.fr. On va parler de ça parce que de plus en plus de boîtes aujourd'hui font le choix de fermer leur restaurant d'entreprise pour les remplacer parfois par la solution que propose notre invité Pierre-Yves Cœur-Devet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur BFM Business. Vous êtes cofondateur président de Carotte.
Tout à fait.
Des frigos connectés. Comment ça marche ?
Eh ben, ça marche très simplement. C'est-à-dire qu'on va aller agréger les repas des meilleurs traiteurs et restaurateurs de chaque ville dans lesquelles on est implanté.
Quelle ville ?
Eh bien, Lyon, Paris, bientôt Marseille et bientôt les 10 plus grandes villes de France d'ici fin 2023.
Oui.
Et qu'on va rassembler dans ce fameux frigo connecté. C'est un peu comme un food court, mais rassemblé en un frigo, dans lequel le collaborateur va pouvoir tous les jours
bénéficier. On voit dans le frigo. Hein.
On voit dans le frigo.
Il y a une vitre.
Exactement.
Donc on sait ce qu'il y a à l'intérieur.
Ouais. Ouais, exactement. Vous avez un frigo avec tous les repas de nos meilleurs traiteurs et restaurateurs qui sont représentés. Vous badgez, vous servez. Le frigo reconnaît automatiquement ce que vous avez pris. Mmh. Vous êtes débité sur le moyen de paiement que vous avez renseigné et vous déjeunez. Donc c'est une minute de transaction pour bénéficier d'un déjeuner qui est vraiment super bon, et sans la contrainte de la commande et de la livraison, et sans non plus, vous mentionnez les cantines, avoir besoin de faire la queue avec son plateau.
Donc c'est pas la vieille pasta box. Bon, parfois c'est bien pratique, mais c'est vrai qu'on, quand on est dans l'entreprise, qu'on est aussi en horaire décalé, parfois on mange le soir au bureau. Parfois les restaurants d'entreprise sont fermés le soir. On va récupérer la fameuse pasta box, justement.
Ouais,
c'est pas forcément très sain. Et puis bon, on mange toujours la même chose. Vous proposez une technologie dans laquelle vous allez insérer des plats qui sont variés, qui sont équilibrés.
Vous avez tout dit. En fait, c'est la praticité d'une pasta box, donc très facile à manger, qu'on réchauffe au micro-ondes, mais avec la qualité des traiteurs et restaurateurs locaux, avec des repas qui ont été cuisinés le matin même, et surtout avec une grande diversité. Je prenais l'exemple d'un food court tout à l'heure, mais vous allez retrouver des plats du monde, des plats sains et gourmands, des plats végétariens, des bowls, tout fait par les meilleurs acteurs aux alentours de votre siège social. Donc c'est vraiment ça la promesse.
Si c'est si bon, il va y avoir la queue derrière le frigo, non ?
Mais dans ce cas, on met plusieurs frigos.
Ah, et vous pouvez en mettre combien, par exemple ?
Ah, ça veut, on a une entreprise, par exemple, qui en a 8. Hein, donc ça peut aller, nous, la plus petite entreprise qu'on va adresser, on va commencer à peu près à 50, 80 collaborateurs, jusqu'à des entreprises ou à des sites, en tout cas, qui ont plusieurs milliers de collaborateurs.
Et vous assurez derrière tout le service après-vente, toute la maintenance, c'est-à-dire, dites-nous, mais vous venez installer le frigo.
Ouais.
Derrière, c'est vous qui venez l'alimenter aussi, s'il y a des problèmes techniques, informatiques, c'est vous aussi qui gérez ça ?
Ouais, vraiment. En fait, on a voulu offrir ce que les restaurants collectifs n'offraient pas forcément, c'est-à-dire une vraie praticité pour l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on installe le frigo, on le branche, on le livre, on le contrôle, on le réapprovisionne, on gère les invendus qu'on redistribue par ailleurs sur des frigos solidaires qui vont permettre à des personnes de bénéficier des repas non vendus à un prix très accessible.
Bon, alors moi, je vais quand même vous partager, Pierre-Yves Cœur-Devet, une expérience personnelle. Alors, c'était pas avec Carotte, je pense, c'était pas votre entreprise, mais j'ai déjà pris un plat dans un frigo connecté.
Okay.
Donc, je mets ma carte, je prends un yaourt, par exemple. Bon, déjà, c'était 2 € le yaourt, c'était cher. Mais je referme le frigo et ensuite, il calcule pour savoir que j'ai pris, et là il me débite 8 ou 10 euros. Parce qu'en fait, il a fait une erreur de calcul. Derrière, pour se faire rembourser,
c'est la galère.
C'est pas possible. Ouais. En fait, on laisse tomber, on se fait pas rembourser.
Ouais.
Comment vous traitez cette question-là ?
Alors, c'est hyper sympa de me poser cette question, parce que pour le coup, c'est un vrai parti pris, un vrai changement de tech qu'on vient d'opérer. Vous avez certainement vécu une expérience avec un frigo qui utilisait la technologie RFID, qui est une technologie qui est polluante et, comme vous l'avez vécu, très défaillante. Et nous, on en est sorti totalement et on a transformé tous nos frigos et donc tous les futurs frigos sont équipés d'un système qui, lui, est à la pesée pour éviter les erreurs d'impression de ces fameuses étiquettes RFID et éviter des expériences clients comme celles que vous avez vécues.
Donc plus fiable aussi.
Beaucoup plus fiable et beaucoup plus rapide. Là, pour le coup, c'est un 100% de taux de détection.
Combien de clients aujourd'hui ?
On a un peu plus d'une centaine de clients en Auvergne-Rhône-Alpes.
Déjà,
On a bien grandi et puis on attaque en Ile-de-France avec nos premiers contrats qui ont été signés.
Vous avez levé 2 millions d'euros tout récemment. L'objectif, c'est quoi avec aussi cette levée de fonds terminée ?
C'est celui-ci, c'est donc d'offrir notre service dans de nouvelles villes, mais aussi d'optimiser notre technologie et d'offrir une expérience utilisateur un peu plus sympa que celle que vous avez vécue.
Merci beaucoup d'être venu nous présenter ça dans le Labo RH ce week-end sur BFM Business. Pierre-Yves Coeur-Devet, fondateur, président de Carotte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans Happy Boulot. Un grand merci encore d'avoir été fidèle au rendez-vous à cette émission. Je rappelle que Happy Boulot, c'est une émission que vous retrouvez toutes les semaines, tous les week-ends, en replay aussi, en podcast, en télévision, en radio. Un sujet vous intéresse en particulier, vous n'hésitez pas, cette émission, c'est la vôtre, bien sûr. Vous nous posez toutes vos questions, vos remarques, une seule adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. D'ici là, on vous souhaite bien sûr d'être les plus heureux possibles au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.